L'oiseau blanc, Philippe Rousselard, bonjour. Aujourd'hui, dans L'oiseau blanc, nous recevons Michel Ratif, un pionnier de l'ère Concorde. De son livre Concorde, Essais et batailles, publié en 1977, un an après avoir effectué son dernier vol comme pilote d'essai sur Concorde, le 31 mars 1976, après 6 ans de vol d'essai, après ce premier vol mémorable de Concorde du 2 mars 1969, André Turca parle ainsi de notre invité du jour. Au plus près de moi, j'aperçois d'abord notre chef mécanicien. Ses fortes mains, issues d'un sang terrien, excellent à manipuler délicatement les plus petits boutons du vaste tableau peuplé de centaines de cadrans de commandes, de voyants, il surveille et contrôle tout. Bien que les systèmes soient largement automatisés, il intervient de temps à autre pour corriger un détail, qu'une panne survienne, je n'en entendrai même pas parler, si l'intervention du pilote n'est pas nécessaire. Il s'en sortira seul, sans avoir besoin même d'ouvrir les pages d'instruction du manuel de vol, car il connaît Concorde mieux que personne. Nous l'appelons volontiers l'encyclopédie. Il n'a pas appris l'avion seulement par les livres, il en a suivi tout le montage de ses yeux, quand même il n'y a pas mis la main. Homme des essais, il sait le pourquoi de ses circuits et de leurs détours, les a parfois fait modifier, les a essayés de jour et de nuit avec les équipes de piste. Sa chevelure tient toujours dru, elle a blanchi simplement, son visage reste plein, mais je sais y lire ses sentiments au seul aspect de son menton quand une réaction de fierté l'agite, à sa fermeté subite quand la mécanique lui résiste, à son sourire devant la difficulté vaincue. Il a pris comme moi plus de gravité après ces années de combat. Pour chacun de nous deux, la sécurité principale repose sur l'autre. Il m'appelle encore chef, par tradition du métier. Pour moi, depuis longtemps, c'est simplement Michel, mon compagnon de confiance du premier jour. Bonjour Michel Rétif, et merci de nous accorder cette interview pour Occitanie Première. Qu'il est beau cet hommage d'André Turca qui nous a malheureusement quittés en janvier 2016. Combien de temps cet homme d'essai que vous avez été a-t-il œuvré dans cette grande aventure de Concorde ?
Bien, je peux dire que André Turca, lui, il est du début de l'aventure Concorde. Hein. Parce que pratiquement... Il a été donc décidé par les autorités supérieures qui prendraient la direction des essais en vol de la SNKZ, enfin de l'aérospatiale de l'époque, pour remplacer M. Nadeau, qui était à l'époque le directeur, qui partait à la retraite. Et donc ça devait se passer en 1962. Et puis, c'est à cette occasion que j'ai commencé à travailler avec M. Turca.
Alors,
André Turca.
Le projet, vous dites 62, je crois que le projet a été lancé en novembre 62 avec un accord entre les gouvernements français et britannique. Mais M. Rétif, vous semblez un peu, je dirais, modeste par rapport à ce qu'en fait, moi j'ai compris que vous y étiez quasiment dès le début. C'est-à-dire qu'en fait... j'ai lu quelque part que vous avez participé, vous êtes arrivé en Angleterre pour prendre connaissance de la maquette.
Tout à fait. J'ai participé aux premières réunions entre les Anglais et nous-mêmes, qui ont eu lieu d'ailleurs à Bristol. Et là, nous avons commencé à travailler sur une maquette qui était donc la maquette du futur Concorde, qui était à réaliser avec les Anglais et nous-mêmes. Quoi.
C'est ce qu'on appelait la maquette, l'avion papier.
Ah non, c'était mieux qu'un avion papier. C'était déjà... Il y avait une ébauche de pilotage.
Les essais ont duré du 2 mars 69, donc date du premier décollage,
oui.
jusqu'en septembre 75.
Oui.
Alors j'ai noté qu'en heures de vol, il y a eu exactement 5500 heures de vol,
oui.
dont 2000 en supersonique. Et vous, monsieur Rétif, vous avez volé combien d'heures ?
J'ai pas compté, je pourrais le voir parce que j'ai mon carnet de vol. J'ai fait pratiquement 80% des essais en vol, avec les différents pilotes qui ont été d'abord Turca et Jean-Francky. Et il y a eu aussi Defer, qui était à l'époque, tout à fait au début, il était d'ailleurs... au service technique, enfin au CEV, chargé de nous contrôler.
Oui, CEV, donc le centre des essais, le centre des essais en vol. Il y avait également Jacques Guignard, qui était le pilote du premier vol.
Jacques Guignard était du premier vol, puisque nous étions donc quatre pour ce premier vol, Turca, Guignard, Perrier et moi.
Voilà, oui. Et ce premier vol, comment vous aviez été choisi par André Turca ? Parce que je suppose qu'il y avait d'autres candidats.
Ah non. À vrai dire, je ne sais pas. Mais si vous voulez, naturellement, j'étais à l'origine. J'ai participé au début, non pas de l'étude, mais presque de cet avion. Et c'est venu naturellement.
Mais là aussi, monsieur Rétif, je vous trouve modeste, parce que je vais prendre ce qu'a dit André Turca dans son livre. Quand il est amené à choisir l'équipage, il dit, je le cite, « Michel Rétif, aux prises avec tous les problèmes... Il est toujours sur le pont, présent le matin, le soir, la nuit,
oui, ça c'est
à
vrai.
Bord
non, non,
et
non,
à l'atelier.
Non, j'y ai passé beaucoup de temps.
Il connaissait sa machine dans les moindres
détails. Oui, ça je connaissais bien.
Et si le choix d'Henri Perrier donc, comme ingénieur et de Michel comme mécanicien, ce choix, il s'imposait sans discussion, dit-il.
Si vous voulez... Il faut quand même pas oublier qu'il y a eu deux Concorde de fer en même temps. Hein. Il y en a un en France et un en Angleterre. Hein. Les Anglais ont toujours été un petit temps de retard parmi nous, enfin, proportionnellement à nos essais, mais tout ça s'est fait des deux côtés de la Manche, pratiquement en même temps. Hein.
Alors vous avez raison.
Mais nous avons toujours fait, si vous voulez, les premiers tests. C'est-à-dire quand il y a eu une augmentation de domaine, ça a toujours été nous qui avons été les premiers à parcourir le domaine de vol plus quelque chose pour certifier l'avion, parce que et puis. Mais les Tropsho, Cochrane et Watts, qui étaient donc l'équipage d'essai du côté anglais, ont exécuté de leur côté, confirmé nos essais, si vous voulez. Tout a été fait en double.
Alors, quand vous parlez d'essai, je me permets de revenir sur votre expérience professionnelle, parce que là, je vous interroge, j'ai tendance à me focaliser sur l'expérience Concorde, mais j'ai vu que le 30 juin 1953, vous étiez avec Jacques Guignard, et donc vous-même, et vous avez passé Mach 1 en piqué.
Ah oui, bien sûr, oui. Tout à fait, oui.
Et ça s'était passé comment à l'époque?
C'était en 53, oui, ou en 53. Nous venions de faire les premiers vols d'un avion qui était un bombardier, Vautour,
Le Vautour,
des moteurs,
oui.
qui était équipé de deux moteurs Attard, d'ailleurs. Donc j'ai fait tous les premiers vols avec Jacques Guignard sur cet avion. Et puis un jour, les Américains, d'ailleurs j'ai les noms, mais enfin bon, sont arrivés chez Marcel Bloch à l'époque, parce que nous étions à Villaroche. Hein. Le
À Moulin, donc.
centre d'essai, c'était Villaroche. Et nous occupions un hangar qui était situé à côté de celui de Dassault, qui lui faisait voler ses prototypes. Et un jour, parce que le pilote d'essai était Rozanov chez Dassault. Il y avait une séparation entre ce qu'il faisait chez Dassault et ce qu'il faisait chez nous, bien entendu. Mais enfin, il y avait quand même des gens au niveau des ingénieurs, des équipages, etc. Et un jour est arrivée une équipe américaine parce que Rozanov n'avait pas fait Mach 1 avec. Je ne me souviens plus, c'était un mystère, un mirage. Et l'Américain, lui, chez Dassault, a passé Mach 1. Et a dit à Rozanov, voilà. Et voilà. Et c'est Carpentier, d'ailleurs, ensuite, qui a fait Mach 1 avec Dassault. Mais nous, sachant que cet avion avait fait Mach 1, comme nous avions fait 0,98 et puis 0,98 et là, en piqué toujours, et là il fallait redresser avant qu'il sorte trop tard, mais on ne dépassait jamais Mach 1. Et notre Macbeth était toujours bloqué à 0,98. Alors, on s'est posé des questions. Alors, un jour, Jaco m'a dit, écoute, au programme d'essai, il y avait un certain nombre d'exercices à faire, et bien, il y avait donc, en finale, une expérimentation, un piqué pour faire un et plus. Ce jour-là, on est monté à 42 000 pieds. Et puis, Jaco, parce que, oui, habituellement, la mise en piqué se fait en palier, à haute altitude, plein gaz, manche en avant, on piquait avec un bon facteur de charge pratiquement négatif à la mise en piqué. Et là, ça marchait, mais on passait donc pas Mach 1. Alors, un jour, il a été décidé de piquer non plus par l'avant, mais de faire un piqué, faire un retournement sur la droite ou la gauche, de façon à conserver un facteur de charge positif. Et on arrivait là, on arrivait à 0,98. Et puis un jour, on est allé, on a réussi à avoir Mach 1, parce que 1,02, quelque chose comme ça. Parce que, en fait, ça s'était expliqué très bien, parce qu'avant, dans nos piquets, on faisait 0,98, mais en réalité, on faisait 1. Parce que l'onde de les prises de pression statique, donc il y a la pression totale qui était sur la perche, et les pressions statiques qui étaient mesurées sur la coque de l'avion, à un endroit bien déterminé, qui était défini en soufflerie. Et il se trouve que, en piquant, l'onde de choc qu'on générait à Mâquin se déplaçait sur le fuselage et venait obstruer les prises de pression statique. Si bien que le Mach-Met restait 0,88. Mais en réalité, on était à 1, et même plus.
Donc il y avait le bang supersonique.
Donc il y avait le bang. Et au sol, ils entendaient le bang.
Et l'anecdote de qui avait entendu le bang alors parce que vous êtes rentré, je crois avoir lu qu'il y avait eu quelques doutes. On a douté en disant, bon, est-ce qu'ils sont passés le mur du son? Et puis il y a eu un témoignage, quelqu'un qui a témoigné.
Oui. Alors, on était sûr un jour d'avoir, donc avec Guignard, d'avoir fait Mâquin et on avait vu. Donc, Mâquin ou Mach-Met dépassé. Et au sol, ils n'avaient donc rien entendu. Mais ils avaient vu quand même, parce qu'en passant Mâquin, il y avait un petit nuage, il y a une petite condensation qui venait. Et finalement, quand il est rentré chez lui, comment ça s'appelait Bon, mais ça, je l'ai écrit parce que moi, si vous voulez.
Parce que j'ai, monsieur Rétif, si vous voulez.
Et là, quand il est resté chez lui, ses voisins ont dit, mais on a parfaitement entendu le double bang.
Est-ce que c'était un épicier qui a entendu le bang, non? J'ai lu qu'il y avait un épicier. C'est un épicier qui a témoigné. On est allé le voir. Il a dit, mais moi, je suis sorti de mon épicier. J'ai entendu ce bang.
Dans son village, donc à côté, dans la vallée, sur la vallée de la Seine.
À Bois-le-Roi.
Bois-le-Roi.
Voilà, c'est
ça. Ils avaient entendu le bang.
Alors.
Donc, il n'y avait aucun doute.
Nous venons de parler du mur du son, du bang. Pour nos auditeurs, vous pourriez nous dire en quelques mots le mur du son, c'est quoi? Ça correspond à quoi, en fait? Très, très succinctement.
Hein. Le mur du son, on sait que c'est le passage du mur du son. C'est quand la vitesse atteint la vitesse du son. Et sur l'avion, à cette époque-là, qui était donc le vautour,
voilà, ouais.
Eh bien, au passage du mur du son, il y avait quand même un certain nombre de vibrations qui apparaissaient. En particulier sur les empennages. C'était des vibrations à haute fréquence. Et puis, alors, il y avait l'hyperinversion partielle d'efficacité des ronds. Parce qu'à un moment donné, au voisinage de Mach 1 plus quelque chose, si vous commandiez au manche des ailerons, commandez à gauche, ils sont allés à droite. Bizarre. Hein, c'est des choses qu'on a. Et puis voilà quoi. Mais ça, c'est été provoqué par la présence des ondes de choc au niveau des ailerons.
Et pour faire ce lien avec Concorde, je vais revenir un petit peu sur la Concorde, le premier vol. Donc on retrouve avec vous là ce jour du 30 juin 1953 pour le passage du mur du son en piqué Jacques Guignard, vous-même.
Oui.
Et puis André Turcat. Et André Turcat, bien évidemment, tous les Toulousains connaissent. J'ai vu aussi qu'en août 1954, il a passé, lui, le mur du son, mais en horizontal. Sur le
Gerfo.
Le Gerfo, ouais, ouais. Voilà. Ouais. Et donc, on voit que cet équipage, on le retrouve sur Concorde quelques années plus tard. Je dirais que ce n'est pas un hasard. C'est-à-dire que votre passion de l'aéronautique, on s'aperçoit que les personnes se retrouvent sur ce premier vol donc du 2 mars 1969, sur lequel nous allons un petit peu discuter maintenant. Donc, à bord, André Turcat, Jacques Guignard, pilote, Henri Perrier, qui était ingénieur navigant, vous-même, Michel Rétif.
Oui.
Et combien de temps a duré ce premier vol?
Le premier vol,
donc en 69, je crois qu'il avait été très court. Hein. Il a été très court parce que vous avez eu des...
Oh, le premier vol Concorde. On a eu, effectivement. Alors, pour faire le premier vol Concorde, d'abord, on était prêt 3 jours avant. Mais malheureusement, la météo n'y était pas. On ne pouvait décoller que face à l'ouest, hein, parce qu'il n'était pas question de décoller face à l'est pour survoler Toulouse ou décoller après le décollage du premier vol. Donc il a fallu attendre une météo avec un vent, si bon y était, qui venait de l'ouest.
Parce que c'était le vent d'autant qui soufflait.
Mais là, là, cette fois-là, pas de chance. Il y a eu une période de 3 jours de brume, sans vent, et à un moment donné, dans l'après-midi, c'était donc le jour du premier vol, le vent s'est levé, mais c'était du vent d'autant, donc il était à l'inverse du sens de décollage, si bien que Turca a décidé, André Turca a décidé de faire le premier vol parce que, bon, on attendait depuis 3 jours, alors on va faire le vol, malgré que le vent était un vent d'autant avec, qui nous faisait donc 10 nœuds de vent arrière.
Ce qui était beaucoup finalement.
Alors, 10 nœuds de vent arrière, c'est quand même pas rien. Et on était accompagné pour.
Excusez-moi de vous interrompre, sachant que pour nos auditeurs, un avion doit toujours décoller face au vent.
Ah, toujours, bien entendu, oui, bien entendu. Et là, en fait. Pour décoller face au vent, il aurait fallu décoller face à Toulouse. Oh, sur Toulouse. Donc à la piste.
C'était la piste 15 à l'époque.
À l'époque, 14 maintenant.
14, tout à fait. Mais...
Et donc, comme la météo s'est améliorée, le chef a décidé, quoique le vent était arrière, de partir pour le premier vol.
Vous venez d'appeler M. André Turca le chef encore, hein, je le note.
Le chef, oui.
Vous avez dit le chef. Oui. Ah, comme il l'écrit dans son livre.
Ah, j'ai dit le chef.
Vous avez encore dit le chef.
Non, c'était le chef. Alors voilà. Et ce premier vol, bon ben, en fait, il était train sorti. On n'a touché à rien. On a fait un tour, aller pratiquement jusqu'à Hoche, venir à la campagne. Et là, malheureusement, pour le premier vol Concorde se parle, nous avions 3 groupes de conditionnement d'air sur le prototype, sur le moteur 1, sur le moteur 2, 3 et 4. Mais sur le moteur 1, il n'y avait pas de groupe de conditionnement d'air. C'est bien que nous n'avions que 3 groupes de conditionnement d'air. Et après avoir mis les moteurs en route et s'être présenté pour le vol, il y a un groupe de conditionnement d'air que je n'ai pas pu mettre en route. La vanne ne s'est pas ouverte. C'est bien qu'on s'est retrouvé avec 2 groupes de conditionnement d'air.
Et tout ça reposait sur vos épaules.
Pardon ?
Ça reposait sur vos épaules, cette question
de conditionnement d'air. Ça, c'était mon truc.
Hein. Ah ouais.
Alors, bon, si vous voulez, j'en dis 2 mots au chef, il me dit, bon, on y va. Alors, seulement malheureusement, alors il était prévu, lui il avait prévu de faire évidemment un vol assez court, avec retour parallèlement à la piste pour aller s'éloigner à l'est et de revenir. Se présenter. Alors lui, il avait prévu de se présenter et de remettre les gaz. Se présenter pour se prendre l'avion en main, quoi, puis amener vitesse d'approche, tout ça, vérifier le contrôle de l'avion. Mais il avait prévu de remettre les gaz pour refaire une présentation. Et finalement, comme je n'avais plus que 2 groupes de conditionnement d'air, et que dans le virage à gauche, hein, alors qu'on était à la piste inverse, bing, un des 2 groupes de conditionnement d'air restants est tombé en panne. Et alors, n'ayant plus qu'1 groupe de conditionnement d'air, le chef a décidé de se poser à la première approche. Alors nous sommes posés à la première approche. Alors la raison était que, avec nous, pour le conditionnement d'air, pour nous, équipage, il n'y avait pas de problème. Mais le problème, c'était de ventiler les équipements. Parce que maintenant, sur les avions modernes, tout est numérique. Alors que tous les amplis sur les avions de l'époque, c'était analogique. Donc, c'était des boîtes noires importantes et qui chauffaient beaucoup. Donc, qu'il était donc nécessaire de ventiler.
D'accord.
Et n'ayant plus de ventilation, de conditionnement d'air, il était exclu de continuer à brûler parce que les paramètres pouvaient dériver, etc. C'est bien qu'on nous sommes posés à la première approche.
Donc vous vous êtes posé après ces problèmes de conditionnement d'air qui subsistaient, il faisait chaud dans l'avion.
Nous nous sommes posés. Et puis, bon, il a été entrepris un chantier sur l'avion avant de faire un deuxième vol. Parce que d'ailleurs, pour ce premier vol, il avait été décidé de ne rien toucher. Point de vue du train, etc., tout ça, le nez, tout est resté en place.
Alors, l'objectif était finalement de montrer que l'avion volait.
C'est faire voler l'avion.
Voilà, c'était tout. Il y avait, et après, vous êtes passé dans des configurations particulières sur lesquelles on reviendra.
Le Concorde vient donc de se poser pour la première fois et nous allons nous-mêmes faire une pause musicale sur votre proposition, Monsieur Rétif. Nous allons écouter Rhapsody in Blue de Gershwin.
On vient de parler du premier vol, donc du décollage de Blagnac. Et puis, en fait, vous avez décollé sur une nouvelle piste à Blagnac.
C'est qui une piste qui a été réalisée spécialement et qui s'appelle toujours la piste Concorde.
Et ça avait été décidé à quelle époque? Parce qu'en fait, tout ça s'est fait très, très rapidement, la construction de la piste.
Ça s'est fait très rapidement parce que... les autorités se sont aperçues peut-être un peu tardivement que la piste, qui est actuellement l'ancienne piste, était non pas trop courte pour permettre au Concorde de décoller, mais était trop courte pour permettre au Concorde de faire des accélérations arrêt. Parce que, bien entendu, avant de faire le premier vol, nous avons fait un certain nombre d'accélérations arrêt, hein, pour tester et l'avion et les freins en particulier.
Oui, parce que la première piste mesurait déjà 3000 mètres.
Ah non, la première piste, 2009, je crois. 2009, oui.
Et là, ça s'est fait en 1966, cette construction de la deuxième piste. Et si mes informations sont bonnes, ce qui est absolument étonnant, c'est qu'elle a été construite en 18 mois.
La nouvelle,
oui.
Elle a été réalisée très rapidement.
Et là, on voit d'ailleurs que ce...
D'ailleurs, c'est nous qui avons pratiquement été les premiers avions. Le premier avion a décollé sur la piste, terminé. Parce que, d'ailleurs, si vous avez eu l'occasion de voir le film du premier vol de Concorde, à l'atterrissage, on a soulevé un nuage de poussière.
Je m'en souviens. J'étais devant la télé chez mes parents. Oui. Et en fait, on voit que cette deuxième piste qui a été construite, financée dans le cadre du projet Concorde, dans le cadre de Concorde.
C'est probablement.
Et en fait, aujourd'hui, si Blagnac n'avait pas cette deuxième piste, on aurait peut-être des problèmes pour assumer la croissance du trafic.
Ah oui, ça, c'est sûr qu'actuellement, ça aurait posé des problèmes.
Et on peut même dire...
Si on n'avait pas eu la piste Concorde.
Plus pour les riverains, le décalage améliore aussi le survol sur la ville quand il faut décoller face à la ville. Il y a un léger...
Ça, c'est peut-être un peu discutable. Hein, ouais. Les deux pistes sont parallèles et à 300 mètres.
Il y a 300 mètres. Ouais.
Alors, vous savez, ça ne change pas grand-chose au niveau du survol de la ville. Hein.
Pour revenir à Concorde et pour faire le lien avec ce dont on parlait tout à l'heure, il a fallu passer à nouveau Mach 1 et puis Mach 2. C'est-à-dire...
Ah oui.
Une
oui.
fois, bien évidemment, la vitesse du son, et puis deux fois, la vitesse du son. Et je crois, j'en suis même certain, Monsieur Rétif, eh bien, vous étiez encore là. Vous étiez dans l'avion pour le Mach 1 avec André Turca et pour Mach 2 avec Jean Franqui.
Oui, c'est exact.
Donc il y avait toujours Monsieur Rétif dans cet avion, dans ce Concorde, à chaque occasion, à chaque grande occasion, vous étiez là.
Bon, disons que j'étais le chef mécanicien et par nature, je devais faire tous les essais à risque. Hein, parce que j'avais quand même plusieurs mécaniciens. Donc, je peux vous citer Yves Pingret, qui était derrière moi et qui était ma doublure en quelque sorte. Il y avait, à l'époque, il n'y avait pas Hugo Van Kerouti parce qu'il était au service officiel, mais il y avait, je ne me souviens plus, il y avait Camps, Bernard Camps, comme jeune mécanicien d'époque, qui a fait, comme moi, avec moi, un certain nombre d'essais avant le premier vol, bien entendu, pour apprendre à connaître l'avion.
Et tout ça s'est passé peu de temps. Enfin, le passage de Mach 1 s'est passé peu de temps après le premier vol. Mach 1 en octobre 69, et puis Mach 2 en novembre 69, donc ça s'est fait rapidement.
Ça a été assez rapide, la progression était rapide.
Hein. Est-ce qu'on peut dire que c'est le passage de Mach 2 qui a donné à Concorde, je dirais, toute sa grandeur? C'est-à-dire que le triomphe à travers le monde, il est passé quand Concorde a passé Mach 2. Bien évidemment, le premier vol a été un grand événement.
Mais avant de passer Mach 2, il s'est passé beaucoup de vols. Hein. Parce que d'abord, par le calcul, l'avion était capable de Mach 2, mais il n'y avait rien absolument sûr. Alors, on a fait un certain nombre de vols avec des entrées d'air à géométrie fixe. Avec des entrées d'air à géométrie fixe, nous sommes allés jusqu'à Mach 1,5. Mais là, on était à la limite extrême. Et il a fallu mettre en route le système de régulation d'entrée d'air pour dépasser Mach 1,5 et aller jusqu'à Mach 2. Et les moteurs aussi vont changer, parce que les moteurs du premier vol n'étaient pas ceux du passage de Mach 2. Hein. On avait des moteurs Olympus, donc, qui ont été aussi eux-mêmes, par Rolls-Royce, largement modifiés.
C'est-à-dire que vous étiez impliqué également, bien évidemment, dans ces modifications, enfin les changements de moteur modifiaient quelque peu votre surveillance, si je peux dire, au niveau de votre tâche.
Oui, à chaque fois qu'il y avait changement de moteur, de type de moteur, enfin de moteur modifié, il y avait des modifications sur l'avion, ça c'est sûr. Il y avait des travaux à faire, ne serait-ce que sur l'alimentation des amplis, parce que les amplis de régulation des moteurs analogiques étaient dans le fuselage. Donc, il y avait donc une liaison électrique entre les régulateurs de moteur et les amplis, qui étaient donc dans le fuselage.
Et toujours pour revenir sur la question du passage de Mach 2 et de ce qui s'est passé dans le monde pour Concorde qui devenait le premier avion civil à passer.
Ah oui, tout à fait. Oui.
Mach 1 et Mach 2,
c'est le seul, hein.
Le premier supersonique. J'en profite, vous venez de dire que c'est le seul, parce que c'est vrai qu'à l'époque, il y avait le Tupolev, le 144, qu'on voyait.
Oui, oui.
Vous avez été témoin de l'accident du Tupolev 144.
Oui,
vous étiez avec avec Jean Turcat à l'époque, avec André Turcat, pardon.
Oui.
Vous étiez là. Vous avez fait partie des témoins importants de cet accident.
J'étais donc avec André, là, en bout de piste, et on avait décollé d'abord le Concorde avec Francky Pingret et Perrier, qui ont fait leur démonstration. Magnifique, parce que Francky, c'est un excellent pilote. Hein. Mais là, il connaissait bien sa machine. Oh, parfait. Et je pense que les Russes ont été impressionnés et ont voulu faire quelque chose d'identique. Hein. Mais malheureusement, ça s'est mal terminé pour eux.
Et monsieur André Turcat, il avait été invité par les Russes pour
ah
entrer
oui,
dans cette
oui, oui.
Et,
alors on a été invité, oui.
Et vous-même, vous étiez invité aussi?
Ah oui?
Ah oui.
Oui. Alors, le chef a dit non, absolument pas. Parce qu'on est allé quand même à Moscou. Hein. Ils nous ont invités, les Russes. Hein. On a visité leur avion, etc. Quoi qu'ils avaient, ils avaient caché beaucoup de choses. Hein. Mais enfin, on a quand même vu l'avion. Mais finalement, le chef a décidé, leur a dit non, il n'est pas question de vous accompagner pour un vol de démonstration. Si, pour un vol d'information, d'accord, on verra plus tard. C'est bien que... Mais il nous a permis.
Eh bien, je suis content que vous soyez là aujourd'hui. Et quand on parle de Concorde, on parle de cet oiseau blanc. Et il y a une déclaration lors du premier vol. Le premier vol, Gilbert Defer est accompagné dans un avion à côté.
Tout à fait. Un météore N11.
Voilà, donc il accompagnait le Concorde.
Et il nous accompagnait, oui.
Et Gilbert Defer a dit, je le cite, j'ai vu ça dans mes lectures, « Tu ne peux pas savoir ce qu'il est beau
oui,
en s'adressant à... »
Tout à fait, ouais. Tout à fait, il l'a dit, oui.
Mm-hmm. Et cet avion, pour vous, il était...
Ah oui, c'était un, tout à fait. Oui,
vous
oui,
gardez pour vous oui, ce bel avion.
Ah oui. Mm-hmm.
Votre carrière, monsieur Rétif, on voit bien que vous avez, selon ce dont on vient de parler avec le Tupolev, le passage de Maquin en piqué, le Maquin Concorde, Mac de Concorde, et tout ce que vous n'avez pas fait, dont on n'a pas discuté, parce que votre carrière est très importante, vous avez touché le risque. Vous aviez le goût du risque. Vous n'avez jamais eu peur.
Non. 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 Mais en réalité, quand même, j'y ai passé beaucoup de temps justement pour éviter d'avoir peur. Hein, parce que les avions, si vous voulez, j'ai commencé à travailler aux essais en vol chez Marchais de Bloch, à Ville-la-Coublay. Et j'étais pas navigant à l'époque, mais j'ai commencé à travailler très jeune. Hein. J'avais 15 ans pratiquement, et j'ai commencé à travailler sur un chasseur qui était le Bloch 152, et sur un bombardier qui était le Bloch 134, un bombardier bimoteur, qui a fait très peu de vol d'ailleurs. Et ça, c'était en 1938-39.
Déjà.
Et donc, est arrivée la guerre, et dès que les Allemands ont donc traversé la frontière, au niveau de la Belgique, nous avons été transférés de Ville-la-Coublay à Brissy, à Orléans-Brissy. Et à Orléans-Brissy, nous y sommes restés très peu de temps, parce que l'armée allemande descendait rapidement. Et de là, nous sommes donc venus en catastrophe à Toulouse, à Blagnac, avec tous les avions qui était encore en état de vol. Nous, personnel au sol, nous sommes déplacés. Personnellement, j'ai fait le voyage Orléans-Toulouse en chemin de fer. Des chemins de fer qui, à l'époque, étaient bondés à bloc. Hein. Et donc, je suis arrivé à Toulouse. Les avions qui ont pu venir jusqu'à Toulouse sont arrivés ici à Blagnac, on a continué à travailler dessus, mais en fait, notre rôle, le mien et de l'équipe, a consisté à réparer des avions qui venaient du front, enfin, qui avaient combattu et qui étaient remplis d'éclats de balles, etc. On mettait des rustines à droite à gauche sur les avions, des blocs 152. Jusqu'au jour où est arrivé l'armistice.
Et pour revenir au cadre de Concorde, je crois que vous avez vécu d'incident grave, mais c'est André Turca qui en parle dans son livre, exactement le 26 janvier 71, avec un problème moteur. Encore André Turca parle de vous, il parle de Michel qui est là et qui suit.
Et
lui n'était pas à bord, hein, je crois.
Frankie, je pense.
Donc là, vous avez encore œuvré dans cette.
Ah ben là, c'est. En fait, c'est relativement simple. Hein. La régulation des moteurs n'était pas optimisée au maximum. Et on s'est retrouvé donc à Mach 2 au sud de l'Atlantique Nord. Et le problème, en fait, l'essai consistait à couper les réchauds. Parce que sur le prototype, en plus, pour faire Mach 2, il nous fallait la post-combustion allumée. En fin de vol, lorsque l'avion était léger, non. Mais en début de vol, il nous fallait, pour atteindre Mach 2, il nous fallait la post-combustion allumée. Et à un moment donné, il avait été, enfin, dans l'ordre d'essai du jour, je ne me rappelle plus, hein, très bien, il avait été décidé de couper les postes commission à Mac 2, les unes après les autres. Et c'était sur le moteur 3, je crois, le moteur 4, je ne me souviens plus. Au moment où j'ai coupé la post-combustion, le régime s'est emballé. Ça a duré une fraction de seconde. Le régime s'est emballé. L'entrée d'air a pompé. Ça a entraîné le pompage du moteur voisin, c'est-à-dire... Le 4.
Vous pouvez expliquer à nos auditeurs très succinctement le pompage, ça correspond.
Pardon ?
Le pompage, vous pouvez expliquer à nos auditeurs ce que c'est qu'un pompage, le pompage moteur ?
Ah ben, ça secouait l'avion, oui. Ah oui.
Très rapidement.
Non, pas, bon, on était habitué. Hein, les pompages, on en a fait quantité industrielle pour faire des réglages. Enfin, bon, le pompage donc, du moteur 3 entraînait le pompage du moteur 4. Mais qui a été très violent, et l'entrée d'air a éclaté, le moteur 4. En fait, l'entrée d'air a éclaté, je t'entends, la rampe supérieure, qui était une rampe mobile, a été éjectée à l'avant de l'avion, elle est dans l'Atlantique, et la rampe arrière, elle est venue se coller sur le compresseur du réacteur. Si bien qu'on s'est trouvé privé du moteur 4. Mais alors là, ça s'est mis à vibrer quand même. Là. Mais naturellement, l'avion qui était donc à Mach 2, le Mach a décru très rapidement, parce qu'on a perdu beaucoup de poussée. Et puis on a réussi, on avait mis en alerte tous les aérodromes sur lesquels on aurait pu éventuellement être obligé de se poser, si bien qu'on avait mis en alerte Shannon, Heathrow, les Bretons, là, et puis... finalement, on est arrivé jusqu'à Toulouse, avec Francky, mais l'avion... on vivrait quand même à une façon relativement importante.
C'était pour vous une expérience et un problème, disons.
Mais l'avion vivrait quand même d'une façon importante. Enfin, bon, nous sommes arrivés jusqu'ici, et là, on a constaté, donc, les dégâts, et évidemment, il manquait pas mal de choses sur l'entrée d'air du 4.
Alors, puisqu'on parle du risque, il y a une personne, quand même, qui, pour moi, est concernée par ce risque, et qui était concernée, c'était votre épouse. Alors pour les auditeurs, il faut que nos auditeurs sachent que Madame Rétif est à nos côtés. Je vois dans ses yeux encore son admiration. Elle vous regarde avec admiration, Monsieur Rétif.
Elle est
bien rodée. Hein. Alors,
Lors d'une conférence, je crois que vous avez dit « L'avion et mon mari ne font qu'un. J'ai partagé cette aventure extraordinaire
au quotidien. » Oui, j'étais pas dans l'avion, mais j'étais pareil. Je savais tout au fur et à mesure. Mais moi qui n'ai pas fait d'aviation particulière, je n'ai pas appris à piloter, rien. Je suis nulle. Mais étant donné qu'on était très jeunes tous les deux... Puisqu'on s'est mariés, on avait 21 ans, il y a 70 ans de ça. Et comme j'ai toujours compris ce que faisait mon cher mari, même quand on n'avait que 25 ans, j'ai tout compris, je m'excuse de cette prétention. Et tout en restant un cornemarieux, je savais qu'il allait décoller à 9h, mettons, avec l'avion. Je voyais l'avion passer. Il allait pour 3 heures. Bon, ben, j'attendais 3 heures. Tiens, j'entendais le bruit.
Et il revenait.
Le voilà qui revient. Et voilà, c'était tout. On attendait la prochaine fois.
Donc,
Et j'ai toujours pris ça comme ça pendant des années. Encore, je vous entends raconter cela, mais c'est comme une très belle histoire.
C'est une belle histoire, madame.
Très, très belle.
Très belle histoire.
Et qui s'est faite entre moi et l'avion. C'est fou.
Et je suis très heureux que Occitanie Première puisse nous... profiter de votre de tous vos propos pour revivre ces histoires. Alors, on vient de parler du passé, monsieur Rétif.
Oui.
Concorde, l'avenir, parce que vous avez toujours l'avenir en tête. Concorde aujourd'hui, bien évidemment, Concorde n'est plus là, ne vole plus, mais dans quelle mesure pour vous cet avion nous a tracé l'avenir? Parce qu'il faut se souvenir qu'à l'époque, en 69, lors de son premier vol, il y a eu également le Apollo 11, la marche de Neil Armstrong sur la Lune. Mmh. Il y a eu le 747, le premier vol du 747,
ouais,
en 69.
Ouais, ouais, ouais.
Donc vous faites partie dans cette année des grandes lumières de notre siècle et
de
pour nos jeunes aujourd'hui, cela a été de grands événements. Mais pour l'avenir, Concorde, ça a servi à quoi en fait pour vous?
D'abord, le Concorde, c'était un avion de prestige. Parce qu'à l'époque, il n'était pas question de rendre le programme Concorde, si vous voulez, rentable. À mon avis, c'est une histoire de prestige national qu'on avait en commun avec les Anglais. Hein, parce que le Concorde, il a coûté quand même très cher. Hein, parce qu'il a été réalisé, si vous voulez, sur des fonds d'État. Alors qu'actuellement, les avions qui sont réalisés par Airbus sont tous des avions commandés par les compagnies et payés à l'avance, si vous voulez. Alors que le Concorde, c'est l'État qui a tout financé.
Et on retrouve.
Et on peut même dire que, en grande partie, les Airbus ont été réalisés avec des outillages, avec des machines qui avaient été réalisées et payées par l'État pour faire Concorde. Et ça, ces machines-là, continuent à fonctionner et servent à construire des Airbus.
Et en dehors des machines, sur l'avion lui-même, ce qu'on appelle l'atterrissage tout temps, hein, je crois que le premier vol, c'est une Caravelle en 62,
oui.
Après Concorde est arrivé en 69, et Concorde a aussi participé à cette...
Concorde, il a été atterrissage automatique dès le départ.
Voilà, donc on peut dire aujourd'hui qu'il y a une, je dirais... Concorde, voilà, il y a encore ces éléments qui nous permettent aujourd'hui d'appréhender, de bien voir l'aéronautique et de continuer à percevoir le futur. Monsieur Rétif, nous arrivons à la fin de notre entretien. Je vous remercie chaleureusement de nous avoir permis et d'avoir permis à Occitanie Première de vous entendre. Je remercie également Madame Rétif, parce que là, tous les deux, et je vais vous poser une question, Monsieur Rétif. Quel âge avez-vous? Si je peux me permettre.
Ah, vous pouvez me permettre. J'ai 94.
Je n'ai pas osé vous poser la question au début de l'entretien, mais je suis admiratif face à votre capacité, vos souvenirs, votre... Alors, nos auditeurs ne vous voient pas, mais... Dans les yeux, il y a tout.
Alors,
les yeux de votre épouse, c'est encore mieux, si je puis dire, si je puis me permettre, Madame Rétif. Mmh. Mais encore merci parce que cet entretien, je l'espère, a été très intéressant pour nos auditeurs. Merci encore, Madame et Monsieur Rétif.
Merci à vous.
C'était L'Oiseau Blanc, une émission de Philippe Trousselard, avec à la technique notre précieux Jean-Loup Arzac. Vous pourrez retrouver cette émission ainsi que les autres qui suivront sur la page Facebook de l'émission Occitanie Première, ainsi que sur le site de la station. Au revoir à toutes et à tous, à bientôt pour de nouvelles aventures.